Bonjour, bienvenue sur Radio Courtoisie, merci de nous accueillir chez vous. Depuis quelques semaines, nous savons que vous êtes très nombreux, les chiffres de l'enquête Médiamétrie, dont c'est la mission de mesurer les audiences, sont très explicites et forcément très satisfaisants. Parce que, avouons-le quand même, les gens qui font de la radio ont pour but d'être écoutés, sinon, à quoi bon ? Ravi donc que la voix originale de Radio Courtoisie, totalement indépendante, vierge de toute publicité, résonne de plus en plus et de mieux en mieux. Un samedi sur deux, donc, je vous propose de gravir avec moi le Kilimandjaro.
Le Kilimandjaro, que les neiges revêtent d'un blanc manteau, est un volcan haut de 5893 mètres. On prétend que c'est la plus haute montagne de l'Afrique. Sur le flanc ouest, près du sommet, se trouve la carcasse congelée et desséchée d'un léopard. Personne n'a su expliquer ce que le léopard cherchait à cette altitude.
Non, personne ne l'a su. Cette phrase est extraite d'un film avec Gregory Peck, Ava Gardner, un film lui-même tiré d'une nouvelle d'Hemingway, Les Neiges du Kilimandjaro. Pourquoi cette phrase ? Pourquoi ce titre d'émission ? Parce que le léopard s'est dépassé et qu'on se demande toujours pourquoi les êtres humains ou les animaux vont au-delà de ce qui est normal. Nous recevons dans l'émission des invités qui eux-mêmes ont dépassé les normes, ont tenté des choses un peu étonnantes dans tous les domaines, mais qui n'ont pas toujours atteint encore ce qu'ils voudraient. On reçoit aujourd'hui Patrick Jeudy, on fera le détail de votre carrière dans un instant. Patrick Jeudy, réalisateur et auteur. Quel serait le sommet que vous aimeriez gravir, que vous n'avez pas encore gravi dans votre carrière ?
Ah, je pensais que vous me poseriez cette question à la fin.
Ah ben non, je vous la pose maintenant.
Je suis vraiment pris... Écoutez, je sèche parce que je suis content de ce que j'ai fait.
C'est vrai, ça n'empêche pas.
Je suis content de ce que je vais faire. Et franchement, je...
Une biographie, je ne sais pas. Neil Armstrong ?
Non, pas
non,
du
ça
tout.
Ça ne vous intéresserait pas, ça.
Non. Franchement, peut-être...
Bon, vous me direz plus tard, on y, voilà. On y réfléchit. Au fil de l'émission, on verra. Vous êtes un spécialiste à mesure, je n'hésite pas à le dire, c'est pour ça que je vous ai demandé de venir. Vous êtes mon réalisateur de films historiques et documentaires préférés. J'adore votre manière de faire les choses, très particulière, qui a beaucoup surpris au début, parce que, en gros, je simplifie, en gros, vous n'avez pas de tournage, ou presque jamais. Souvent, les documentaires, c'est une alternance de témoignages en direct, enfin pas en direct, mais captés de nos jours, et puis qui font référence à du passé, avec les gens en studio, qu'on filme comme ça. Vous, en général, vous faites parler les archives, c'est un choix très différent. Pourquoi faites-vous ça comme ça ?
Par fainéantise. C'est-à-dire, pendant longtemps, j'en ai eu assez d'aller en banlieue avec une équipe qui, parfois, n'était pas toujours plaisante. Et je me suis dit, effectivement, je pouvais raconter tout ça avec des archives.
Parce que les voyages que vous nous proposez, ce sont des voyages essentiellement de temps. C'est l'histoire qui vous passionne le plus. Ce n'est pas de la découverte physique, géographique, c'est l'histoire. Et vous faites parler les archives. J'imagine que vous avez un plaisir de gourmet à regarder pendant des heures, des kilomètres d'archives, ouais, à trouver les bonnes. Est-ce que, comment ça fonctionne ? Est-ce que vous avez un canevas que vous écrivez et après vous cherchez les images qui vont bien ? Ou bien des images que vous voyez dans vos recherches vous inspirent un texte ?
Alors les deux.
Les deux fonctionnent.
Les deux, effectivement. Je veux dire, si je traite un sujet, il faut que je trouve les images sur le sujet. Mais à une époque, je me déplaçais moi-même un peu partout, aux États-Unis, en Angleterre, et je visionnais des tonnes de sujets.
J'imagine.
Et parallèlement, il y avait toujours le petit pas de côté dans les archives. Il y avait toujours un sujet étrange, bizarre, qui montrait des images différentes. Et ces images-là, je me les appropriais et je me disais, je les mettrais quelque part. Et effectivement, je les ai toujours mises quelque part. Or, j'ai trouvé des prétextes. Par exemple, dans mes portraits, il y a souvent un gimmick, c'est le cauchemar. Le cauchemar, tout le monde fait des cauchemars. Donc, ce cauchemar me permettait un morceau de bravoure, un montage différent, cacophonique peut-être, même en parlant d'image. Et je continue à faire ça. Et je fais d'ailleurs des émules.
Ah oui, c'est vrai. Un des premiers films que vous ayez fait, le premier que j'ai vu moi, absolument formidable, qui montrait bien cette manière dont vous alliez travailler pendant les décennies qui ont suivi, qui s'appelle Les Quatre Lieutenants Français. C'est assez intéressant parce que vous racontez des histoires que vous avez inventées, même si c'est un peu plaqué sur des personnages qui évoquent. Mais les images que l'on voit, ce n'est pas eux, puisqu'ils n'existent pas. Donc vous utilisez les images non pas en illustration directe, comme on le fait généralement, à savoir, les hommes sont devant la colline, et on voit la colline. C'est comme ça que ça se passe souvent. Vous avez fait autre chose, vous avez fait une espèce de poésie, et les images ne disent pas la même chose que le texte. C'est ce que je trouve très particulier et très intéressant.
Oui, là, vous me faites vraiment plaisir, parce qu'effectivement, c'est le... même si j'ai fait des films avant, c'est le film qui m'a révélé à moi-même.
Bien sûr.
Écoutez, j'étais dans une période où je ne travaillais pas et j'avais la chance de profiter d'un studio. On me prêtait un studio et j'ai visionné presque tout ce qui avait été fait sur l'Indochine. Et en visionnant, je cherchais les images insolites, celles qui pouvaient alimenter justement un cauchemar, mais aussi les rushs, c'est-à-dire les bouts qui n'étaient pas montés, les morceaux bien qui sûr. Avaient été mis de côté. Et à partir de là, avec ces images-là, je me suis dit, mais je comptais le faire, j'avais aucune chaîne de télévision.
Je vous écoutais un extrait, c'est bien aussi à la radio, on n'a pas l'image, mais c'est bien, ça fait rêver. Vous l'avez fait, je crois, pour Canal Plus et France 3, ce film, Les 4 lieutenants français, voici leur présentation.
Ils étaient 4 lieutenants français. En fait, il n'y en avait que 3. Hans, le légionnaire, était allemand, un ancien de la Wehrmacht. Pour tous, il était le lieutenant. Au début de cette histoire, il est en Indochine depuis longtemps déjà. Il a connu les désastres de Cao Bang et de la route coloniale 4. Jean et Bernard débarquent le même jour à Saigon du transporteur de troupes Oregon. Ils ont voyagé ensemble depuis Marseille, mais ils ne se connaissent pas. Leurs itinéraires se croiseront encore, mais ils ne se connaîtront jamais. Quant au quatrième lieutenant, celui qu'on appelait le pirate, personne ne savait alors où il se trouvait. C'est plus tard que j'ai su, mais ceci est une autre histoire. Ils ont aimé l'Indochine. Nous avons aimé cette lumière, ces odeurs, le grouillement des villes et des rizières, le mystère des montagnes, la chaleur moite, le fracas de la mousson. Nous avons aimé ce peuple dur à la peine, railleur, courageux. Nous avons aimé cette civilisation ancienne et raffinée. Nous avons aimé les femmes de ce pays, énigmatiques, douces et fières.
Un extrait des 4 lieutenants français de Patrick Judy qui est avec nous aujourd'hui. Agréable de réentendre ça ?
Très émouvant.
J'imagine. C'est réussi, c'est formidable. Il est visible ce film sur YouTube, je l'ai revu souvent et notamment là pour préparer l'émission. C'est vraiment une réussite remarquable. Et les 4 personnages sont des archétypes. Il y en a un qui est un fils de général, ça ressemble au fils de Maréchal de Lattre. Un qui est un légionnaire, il y en a eu beaucoup. Un qui ressemble à celui qu'on appelait Philippe Guillaume, le pirate, c'est lui. Donc vous êtes inspiré de ces gens, au fond, même si ce n'est pas vraiment eux.
Absolument. En plus, j'avais déjà fait un ou deux films sur l'Indochine, et donc voilà pourquoi j'avais visionné ces images, et je m'étais dit, je vais raconter une fiction.
C'est une fiction.
C'est une narration. D'ailleurs, j'ai fait le film, et le film n'avait pas de texte. Et j'avais fait le film.
À l'image, vous voulez dire.
Tout était fait, même la musique. Et on m'a mis au contact de Louis Garrel,
Force Sagan,
Indochine.
Darbaroud.
Et il a accepté le challenge.
De faire la narration.
Je lui avais effectivement raconté l'histoire. Mais il a écrit, et la plus belle chose qu'il ait pu écrire... C'est le début, la première phrase. J'avais mis un enterrement avec un cercueil d'enfants, 40 et quelques, et je ne savais pas comment commencer et que dire, surtout que ce cercueil était blanc.
C'est ça.
Et il me rend sa copie, il commence « Pourquoi ce cercueil blanc ?» Point d'interrogation.
Pas mal.
Ben j'ai réutilisé le stratagème, le truc, si j'ose dire, sur plein de films.
On se replonge dans les 4 lieutenants français pour un deuxième extrait où un des officiers a semble-t-il disparu pendant quelque temps.
Le Viet Minh avait lancé son offensive d'automne en Pai Thaï. La mousson s'achevait, les pluies avaient cessé. Très vite, on a perdu le contact avec le bataillon de Jean. Silence radio, plus aucune nouvelle. Ils avaient été lâchés, par erreur, je suppose, au milieu des Viettes, dans la gueule du loup. Jean s'est retrouvé sur un piton perdu. Pendant des jours, à Hanoï, on a cru qu'on ne les reverrait plus. Vers le nord, au-delà de la montagne, c'était la Chine. Entre ce groupe d'une centaine d'hommes et les milliards d'habitants du monde communiste, de la Baltique au Pacifique, il n'y avait rien. La faim, la soif, l'attente, la peur. Ça m'est arrivé aussi.
on rêve à ce qu'on n'a pas, à tout ce qui paraissait si naturel dans cette autre vie. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? On a repéré enfin le bataillon perdu. On leur a parachuté du ravitaillement, de la glace pour boire frais, du maxiton pour rester éveillé, des images pieuses pour garder la foi. Jean était sauvé.
Provisoirement sauvé. C'est un film de Patrick Jeudy, Les quatre lieutenants français. Je répète le principe très étonnant, des images d'archives, donc absolument réelles, mais une histoire fictionnelle. Ça ne prétend pas être une narration chronologique de la guerre d'Algérie. C'est l'aventure de ces quatre personnages archétypiques. Celui qui est le pirate ressemble un peu au modèle du crabe tambour de Schoendorfer.
Alors, il ressemble au modèle du crabe tambour. J'ai beaucoup aimé ce film. Mais il ressemble aussi à Élite Samar, que je venais de rencontrer et que j'ai accompagné jusqu'à sa mort. Et c'est son histoire. Parfois, il y a même les mots d'Élite Samar dans le texte.
D'accord.
Que à la fois Louis Gardel et moi avons repris dans les nombreux livres que Élie
sur la fin de sa vie, c'est quoi, voilà. Ça fait à raconter tout
et
ça.
Et donc, c'était ce modèle-là de type mystérieux qui a été aussi dans les renseignements, qui a été au 11e choc, mais...
Déporté dans sa jeunesse. Tout ça évidemment. Pour éviter qu'on dise en permanence que les officiers d'Algérie et d'Indochine étaient des fascistes.
Oui, effectivement, vous avez raison, on rajoute ça, et moi-même d'ailleurs, c'est ce que je rajoute quand je parle d'Élie à ceux qui ne le connaissent pas.
C'est très amusant que vous m'ayez parlé de lui, car je n'avais pas fait le lien entre Élie Loisin et ce personnage, et justement, je voulais vous en parler... Avec le troisième extrait qu'on voit là, où on nous explique pourquoi les officiers sont horriblement endoloris à l'idée d'abandonner leurs partisans.
En Méditerranée, le temps devint plus frais et l'air sembla redonner un peu de vie aux pirates. Il me confia alors son secret. Son secret, c'était la honte d'avoir abandonné ses partisans. Je ne sais pas s'il faisait confiance à la France, mais à moi il faisait confiance. Et c'est moi qui les ai abandonnés.
Voilà, et on sait tous maintenant, enfin ceux qui s'intéressent à l'histoire, que cette époque-là a été un peu le ferment du comportement des officiers en Algérie. Ils ne voulaient pas une deuxième fois abandonner les hommes qu'ils avaient soutenus, quitte à être parfois en travers du sens de l'histoire.
Alors ça, c'est exactement l'histoire d'Élite Samar.
Absolument.
Effectivement, quand il était plus jeune, il a été obligé d'abandonner ses partisans à Tulé. Et quand il a fait l'Algérie, après, c'est ce qui l'a pas motivé, c'est ce qui fait qu'il a dit oui au général Challe et qu'il a mené le putsch des généraux.
Mais n'oublions jamais qu'il n'a pas tiré un coup de feu. Et que c'est au fond grâce à lui que ça tourne pas plus mal que ça.
Et il n'est pas allé dans l'OAS parce qu'il a été arrêté avant, et je ne sais pas s'il l'aurait fait.
Il commandait en second d'ailleurs, en était le régiment, mais il se trouve que le colonel était absent ce jour-là. Et c'est
alors,
lui qui...
le colonel bon. Guiraud, effectivement, avait courageusement quitté son poste, parce que tout le monde savait que le putsch se préparait. Tout le monde.
Bon, ne nous égarons pas, ce n'est pas le sujet du jour. Mais je voudrais vous demander aussi pourquoi cette passion, parce qu'il y a au moins quatre films pour l'Indochine pour cette époque-là, pourquoi cette passion chez vous?
Alors, en souvenir, certainement, je suis assez ancien pour... me souvenir d'avoir entendu à la radio la chute de Dien Bien Phu.
Ah oui,
premièrement.
C'est vrai. D'accord.
Deuxièmement, j'ai fait mon service militaire à l'ECPA, c'est-à-dire au cinéma des armées, où j'ai rencontré un des caméramans qui avait perdu une jambe le premier jour de la bataille à Dien Bien Phu, André Lebon.
Ah, qui est évacué, et c'est pour le remplacer que Schoendorfer a parachuté, c'est ça?
Voilà.
D'accord.
Et c'était un vieux de la vieille, donc il a perdu la jambe là-bas, et pendant un an de service militaire, il m'a parlé de l'Indochine, de la magie de l'Indochine, du mal jaune, le fameux mal jaune.
Et un de vos films récents repart de l'Indochine. Un mot pour expliquer la mission du capitaine Belmont, on va écouter un extrait, mais quelle est cette mission incroyable que vous évoquez dans le dernier film, Les fantômes du Tonkin?
Alors c'est une mission secrète, mais comme tout secret, effectivement, il gagne à être connu.
Et vous aimez bien les dévoiler.
J'ai retrouvé trace d'un rapport... qui était sur cette épopée du capitaine Belmont, un petit peu comme dans Apocalypse Now, un an après la défaite de Dien Bien Phu, on veut envoyer quelqu'un en territoire Viet Minh inventorier les morts. Il y a quand même 5000 ou 6000 morts.
Retrouver les corps, puisqu'on ne les avait pas emmenés, forcément.
En fin de compte, c'est à la demande d'un général très haut placé.
Gambiez.
Gambiez.
Dont le fils est tombé à Dien Bien Phu.
Voilà, qui a perdu son fils là-bas, et que cette mission, en fin de compte, a été acceptée. C'est un petit passe-droit.
Alors ce film, Les fantômes du Tonkin, c'est pareil, on peut le voir sur YouTube, il est tout à fait disponible, je l'ai vu moi-même il y a 2 ou 3 jours, et il raconte cette mission, et voici un extrait où le capitaine Belmont explique, enfin indirectement, ce n'est pas lui, il n'y a pas d'interview, c'est toujours votre manière de faire les choses, c'est de l'image que vous plaquez sur l'histoire. Le capitaine Belmont arrive enfin sur un charnier, un cimetière.
Pour le capitaine, chaque échec est une désillusion et une souffrance. De cette terre, il ressuscite la mémoire des acteurs de la bataille. Des hommes qui tous charrient avec eux les secrets de leur vie et de leur disparition.
Le premier cimetière que nous atteignons semble être celui de l'antenne chirurgicale parachutiste du médecin capitaine Hans qui vient d'être débroussaillé près de la piste d'aviation. Nous trouvons 50 tombes. 5 semblent être des fosses communes. 12 d'entre elles peuvent être identifiées. Sur l'une d'elles, une pauvre croix identifie le première classe, Zantellini-Roland, 8e soc. Ses papiers militaires, dans une bouteille, à ses côtés.
Voilà, je vois Patrick Jeudy, le réalisateur du film que nous écoutons en ce moment. Je le vois écouter ça captivé comme si c'était la première fois. Alors vous connaissez tout par cœur, et pourtant vous l'écoutez différemment là.
Oui, parce que je ne les ai jamais revus.
Ah c'est vrai ?
Oui.
Vous ne revoyez pas vos films ?
Non, parce que je vais les trouver trop bien.
À ce point-là ?
Je vais me faire du mal. Hein.
Est-ce que vous considérez comme un historien ?
Non, mais il y a des sujets où j'en connais certainement plus que certains historiens, oui.
Je vous dis ça, non pas, ne le prenez pas en mauvaise part, au contraire, mais c'est parce que vos films, ce ne sont pas des narrations chronologiques et vous ne prétendez pas découvrir ou montrer quelque chose qui n'est pas connu, la version cachée de... Non, vous plaquez des histoires individuelles que vous inventez parfois sur le fond réel et vous faites des fictions avec le vrai. C'est comme ça que vous fonctionnez. Donc c'est pour ça que je vous pose la question, êtes-vous historien ?
Donc je ne suis pas historien, voilà, je suis un conteur.
C'est ça.
Un narrateur, un conteur.
En tout cas, c'est un univers très particulier et absolument captivant. Depuis toujours, on se croit de temps en temps, tous les 10 ans, et je vous le dis, tous ceux qui ne connaissent pas les films de Patrick Jeudy, il faut les voir, une manière différente de comprendre l'histoire. Je ne dis pas d'apprendre, il n'est pas historien, mais de comprendre, voir avec une espèce de sensibilité différente, ça vaut vraiment la peine. Merci de rester avec nous, Patrick, jusqu'à la fin. On va quitter l'Indochine, même si ce sujet vous plaît beaucoup. À moi aussi, j'ai eu la chance de faire il y a 15 jours une émission sur Dien Bien Phu, un peu tout seul à la Pierre Bellemare. C'était pas si facile, mais c'est tellement fort en émotion. Pour clore, musique. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est une chanteuse qui s'appelle La Grande Sophie. Très jolie chanson qui s'appelle Hanoï, Hanoï. Écoutez plutôt.
Hanoï, Hanoï, je me souviens, ton visage, ton parfum, tes couleurs aussi. Je te regarde passer, je suis chez toi. Hanoï, Hanoï, tu me retiens. La pluie dégringole. Autour du lac, j'entends comme des bruits qui résonnent, des vagues de motos. Quelle est cette autre personne? Son cœur qui klaxonne sous ton regard accroupi. Autour du lac, il y a devant moi un tableau, les amoureux se questionnent, et moi chante, je te reverrai. sur tes trottoirs. Hanaï, Hanaï, tu me fais voir ton sourire, ta vie dehors, tes ruelles aussi. Sous la jambe électrique, je perds mon chemin. Hanaï, Hanaï, je t'appartiens. Sur l'ouverte, tes marionnettes dans une autre vie. Autour du lac, j'entends bien des bruits qui résonnent, des vagues de moto. Quelle est cette autre personne, son cœur qui klaxonne, c'est ton regard accroupi. Autour du lac, il y a un monde qui bouille. Devant moi, un tableau, les amoureux se questionnent. Si je t'aperçois, Hanaï, Hanaï, si loin de moi, le velours, la fleur de lune, et moi à Paris.
La grande Sophie, très jolie chanson, Hanoï, Hanoï, qui évoque bien cette ville, je trouve, Patrick Jeudy, vous êtes allé, bien sûr. Il y a oui. quelque chose de poétique et dans cette ville qui n'est pas le cas de Chiminville. C'est l'impression que j'en ai eue. Je connais mal, je n'y suis allé qu'une fois, mais Hanoï m'a paru beaucoup plus charmant.
Oui, mais froide. Mm-hmm. J'y suis toujours allé époque...
Climatiquement.
Oui, climatiquement. Climatiquement, la première fois où j'ai débarqué en Indochine, c'était à Hanoï, au Vietnam. Il faisait très froid.
Mais à part ça, la ville a du charme. Mais le lac dont on parle, la Grande Sophie, est une chose à
oui,
voir.
Oui, l'austérité de la
absolument,
ville.
Absolument. Et puis aussi des choses qui évoquent la France, encore des bâtiments. Hein. C'est, sans vouloir les choses à travers notre prisme, ça se voit quand même encore un peu.
Absolument.
Vous n'êtes pas un baroudeur fou, vous tournez des films, mais vous êtes plus enfermé dans la salle d'archives que sur le terrain, micro à la main, affrontant les mitraillettes. Non, vous êtes un homme d'intérieur finalement. Vous voyagez par l'intérieur.
Oui. C'est un voyage que je poursuis, je pense, depuis l'enfance. J'ai jamais eu l'impression dans ma vie de travailler, j'ai toujours l'impression de jouer. Bien. Et c'est ce qui explique un petit peu les choix de mes films, de mes sujets. Je veux dire, ce sont des sujets avec lesquels je peux jouer, qui me rappellent mon enfance, qui sont tout part de là, en fin de compte.
Pourquoi est-ce qu'il y a dans la guerre d'Indochine quelque chose de poignant et d'un peu romanesque, alors que la guerre d'Algérie, ça paraît une chose de feu, et avec des horreurs. Enfin, il n'a pas la même impression, je trouve.
L'Indochine, c'est la guerre des réprouvés, c'est la guerre... je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était les mauvais garçons qui allaient en Indochine.
Pas les appeler déjà, des professionnels, ça
voilà,
quelque
d'abord,
chose.
D'abord, mais souvent des mauvais garçons.
Des légionnaires. Des...
Alain Delon, François Truffaut y a échappé. Mais les deux devaient y aller par mesure disciplinaire. C'était les têtes brûlées.
Mmh. Truffaut à la guerre, je le sens pas.
Mais il a été retenu au dernier moment par André Bazin, qui était son père spirituel.
Bien sûr. Non mais à part ces personnages dont vous parlez, il y a une, me semble-t-il, parce que c'est une cause peut-être perdue, c'est pour ça, quelque chose d'un peu romanesque qu'on ne retrouve pas dans la guerre d'Algérie.
Romanesque parce que ce sont des réprouvés. Je veux dire, ce sont des gens qui sont morts là-bas, à je ne sais combien de milliers de kilomètres, oui. et qu'on continue à stigmatiser.
Bien sûr.
Je veux dire, l'Indochine, quand j'ai fait mon premier film sur l'Indochine à la télévision, on m'a regardé bizarrement. D'abord, on a eu du mal à l'accepter, c'était avant les quatre lieutenants. Mais on m'a... je suis certain même qu'on m'a collé une réputation
c'est
à
sûr.
Partir de là.
Et ça a changé. Il me semble que c'est plus ouvert que ça ne l'était à l'époque, sur ces sujets-là. Pas tant que ça, vous trouvez ?
Pas tant que ça.
On voit les films quand même.
Pas tant que ça. Les films sur l'Indochine sont très très rares, à la limite tous les 10 ans.
Mais il est vrai que ça concerne moins les gens, car tout Français a eu un fils à la guerre d'Algérie ou un frère. Là,
et c'est, on peut pas s'imaginer. Je veux dire, tout le monde a eu quelqu'un. Il y a toujours une part de secret, de mystère. Des gens n'en parlent pas. Les gens n'en parlent pas de leurs parents éloignés qui s'est...
Bien sûr. Patrick Joly, comment travaillez-vous ? Est-ce que vous réfléchissez chez vous à un sujet et vous allez le proposer à une chaîne ? Ou parfois avez-vous des commandes ? C'est rare, hein, je pense. Comment fonctionnez-vous ?
Oui, je dois reconnaître que j'ai eu pendant longtemps la chance de proposer et d'arriver à vendre un sujet à l'époque où on pouvait vendre un sujet en voyant le responsable en face de soi. Maintenant, il faut écrire 30 pages. Je veux dire, c'est pas mon mode d'expression.
Je sais, j'imagine.
Donc, je choisissais des sujets, j'ai eu la chance de pouvoir les faire partager.
Il y a deux thèmes principaux, je schématise, mais en analysant votre œuvre, il y a deux thèmes principaux. Il y a beaucoup l'Indochine et il y a aussi beaucoup l'histoire récente de l'Amérique. C'est votre deuxième dada, si j'ose dire.
Oui, et là, paradoxalement encore, l'Amérique n'a jamais été mon Graal. Je veux dire, je crois que l'Amérique, elle est venue par les Kennedy.
Mmh, vous en parlez, hein. Deux films au moins, si ce n'est plus.
Beaucoup plus.
Ah,
et les Kennedy, pas que. En fin de compte, l'amour des Kennedy m'était venu par l'amour de Nixon.
C'est rare.
Au moment des élections de 60, je me souviens, à l'école, tout le monde était autour de Kennedy, il est beau, il est fort, etc. Et moi, j'aimais le petit avorton Nixon.
Et vous savez comme moi, c'est le débat télévisé qui fait gagner Kennedy. Et ce que vous savez sûrement aussi, c'est que les gens qui ont écouté à la radio le débat était encore prêt à voter Nixon, c'est ceux qui ont vu l'image qui ont voté Kennedy.
Bien
c'est
sûr,
le triomphe de l'image.
Mais ils ont vu un Nixon qui sortait de l'hôpital où il venait de passer 3 semaines pour une infection. Il était pâle, il était blanc.
Il n'était pas, mais il ne voulait pas se maquiller aussi.
Et Kennedy, lui, avait dit non, pas de maquillage, évidemment, il était bronzé.
Il était beau.
Et pour faire
bien.
Pareil, Nixon a dit moi non plus. Et il était pâle comme
je,
les
je
gens.
Je crois que c'est le premier débat politique de l'histoire de la télévision, hein, c'est 60, il n'y en,
oui.
en avait pas avant.
Absolument.
Et c'est le moment où l'image commence à jouer un rôle décisif et la com. Mais au parler de Kennedy, tiens, ça va vous dire quelque chose.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est Marilyn Monroe qui vient sur scène en se faisant attendre d'ailleurs. Il y a Peter Lawford qui l'introduit, elle met du temps à arriver des coulisses et elle vient chanter ce Happy Birthday de manière incroyablement langoureuse et sensuelle à Kennedy, dont elle est à l'époque la petite camarade sous-jacente, alors qu'il y a la famille en face. C'est à la fois charmant et en même temps assez invraisemblable comme situation, non ?
Oui, Marilyn, c'est la porte d'entrée à tous mes films, d'ailleurs, avec les Kennedy. Je veux dire, c'est évidemment cette scène-là, entre autres, qui ouvre la porte.
Bien sûr. Mais comment l'avez-vous, cette scène ? On peut la trouver glamour et sexy, et je la trouve au fond un peu pathétique, moi. Il y a quelque chose de triste là-dedans, qu'elle vienne s'exhiber comme ça.
Oui, surtout quand on sait les conditions dans lesquelles ça s'est fait. Je veux dire, Jackie Kennedy qui n'a pas voulu venir parce qu'elle savait que Marilyn venait.
Ah d'accord.
Marilyn qui a quitté le studio alors qu'on lui interdisait de quitter le studio. Et qui est reparti, et c'était sans doute la dernière fois où elle voyait Kennedy d'ailleurs.
D'accord.
Donc le malheur est là au-dessus de cette chanson.
C'est vrai, c'est très juste. Un des personnages donc, qui vous intéresse beaucoup, et vous n'êtes pas le seul, c'est Marilyn Monroe. Vous lui avez consacré un film que je trouve très intéressant qui s'appelle Marilyn malgré elle, tout est dit. On la voit comme le sexe symbole absolu, mais ce n'est pas ce qu'elle voulait être au fond.
Oui, maintenant, on travaille, les historiens travaillent sur Marilyn Monroe. Et on a découvert des choses que, avant, on disait, oui, elle aime lire, mais elle tient le livre à l'envers. On se gossait de cette tentative d'érudition de Marilyn. Maintenant, on s'aperçoit qu'elle a laissé des écrits qui sont vraiment très beaux.
Intéressant.
Je veux dire, très intéressant.
Un extrait de votre film Marilyn malgré elle qui pose bien les enjeux.
Marilyn était obsédée par la peur de ne pas être à la hauteur. Rien ne la rassurait jamais. aucun éloge, aucun compliment, pas même les dithyrambes de ses metteurs en scène, Henry Hathaway et Billy Wilder. Elle redoutait toujours qu'on ne l'apprécie que pour son look d'aguicheuse. Pourquoi les gens sont-ils tellement obsédés par les questions de sexe, demanda-t-elle un jour. Tout cela me paraît à moi aussi inintéressant que d'étaler du cirage sur une chaussure. Or, pour la première fois, aucun doute, Milton Green avait attrapé d'elle quelque chose que tous les hommes, jusque-là, avaient laissé échapper. Ses photos la révélaient à elle-même comme elle souhaitait être vue par les autres. Une certaine réserve, une authentique gravité. Des vêtements amples, des poses pudiques, pas de tenue moulante, pas de provocation. À aucun moment Milton ne lui avait demandé d'être sexy, et ça lui avait convenu bien au-delà de ce qu'il pouvait imaginer.
Nous survolons la carrière de Patrick Jeudy aujourd'hui, réalisateur de documentaire, qui est avec nous. Marilyn Monroe fait partie de ces gens sur lesquels on a l'impression que tout a été dit. Refaire une xième biographie de Marilyn, Norma Jean Baker, la pauvre petite, etc. Mais pourquoi ? Vous, votre angle, c'est de dire, il y a un moment de sa vie et de sa carrière, elle trouve enfin quelqu'un qui la comprend, ce photographe Milton Green, et il se crée entre eux une amitié assez étonnante. C'est le sujet du film.
Oui, c'est un moment où elle vient de quitter son deuxième mari, Jody Maggio, qui est un macho total.
Un couple étonnant, donc.
Et qui voulait un couple étonnant, mais qui n'a pas duré longtemps.
Un peu factice, non ?
Pas du tout. Je veux dire, au début, c'était un vrai amour. Elle aimait la famille de Di Maggio, elle aimait la mama qui faisait les pâtes. Elle a adoré ça, au contraire, ça rejoint un petit peu l'âme profonde de Marilyn.
Moi, je trouve vilain ce Di Maggio, je suis jaloux. Je trouve vilain comme... Il n'y a pas que ça dans la vie. Mais...
Et puis, il a tabassé.
Non.
Bien sûr, oui, oui.
Bon, et là, Milton Green, enfin, qui n'est d'ailleurs pas son amant, qui est un vrai ami... va l'aider à se révéler à elle-même. Et ils vont même créer une compagnie ensemble. C'est fou, on l'a oublié,
voilà,
ça.
Voilà, elle quitte Hollywood. Elle a quitté Di Maggio, elle quitte Hollywood et elle vient à New York. Et elle vient à New York pour suivre des cours de théâtre avec notamment Lee Strasberg. Elle rencontre Milton Green. Et là, effectivement, un partenariat qui durera très longtemps entre eux. Je veux dire...
Il crée une compagnie, mais finalement ça ne marchera pas. Elle devra retourner dans Hollywood qu'elle avait fui.
Oui, elle va devoir retourner à Hollywood, effectivement. Mais entre-temps, elle aura rencontré quand même l'intellectuel écrivain Arthur Miller.
Bien sûr. Mais dans votre film, il y a ce passage, j'ai appris quelque chose que j'ignorais complètement, c'est quand elle va au cours de Strasberg, elle est assise, la plus grande star mondiale, elle est assise par les étudiants anonymes en fin de cours, écoutant attentivement. C'est fou comme scène.
Il y a de plus en plus de photos qui sortent notamment de ces cours de théâtre de Strasberg, où on la voit vraiment, c'est Madame Tout le Monde.
Absolument. Est-ce que dans votre film, vous dévoilez des photos que nul n'avait vues jusqu'à présent, que Milton Green avait maintenues cachées ?
Oui, parce que j'ai eu accès de manière très rocambolesque à toute l'œuvre de Milton Green.
Là, comment ? En quelques secondes, comment ?
Eh bien, ces images avaient été saisies par le fisc, et les images de Milton Green, et elles se sont retrouvées en Pologne. Bon. Et c'est en Pologne que j'ai eu accès à tout ce fonds Milton Green.
Que presque personne n'avait vu.
Ben, les contacts, non. C'est-à-dire
c'est
avoir accès. D'abord, on connaissait une photo représentative de Marilyn faite par Milton Green, mais il y en avait 50, 100. Et je les ai toutes eues.
C'est formidable.
Donc l'enjeu du film, d'ailleurs, c'était de faire un film uniquement sur ces photos.
C'est ça,
donc,
c'est la trame.
Deux années de la vie de Marilyn, où il y avait très peu d'images à part ces photos.
Un extrait, justement, on parle de sa vie chez les Green, ce nouvel ami Milton Green.
Le 23 décembre 1954, juste avant Noël, incognito, perruque brune, lunettes noires, Marilyn décolle de l'aéroport de Los Angeles pour New York. Sous le pseudonyme cocasse de Zelda Zonk.
Depuis 1947, elle avait appartenu corps et âme à la Fox. Milton Green l'entraîne sur une autre planète. Il veut qu'elle soit reine, mais sur un trône moins factice que celui des comédies d'Hollywood.
«
Marilyn aime son ingénuité. Extérieur au système, il ignore tout du métier de producteur, mais le désir le taraude. En fait, ils se ressemblent. Elle veut devenir une véritable actrice. Il ne veut pas rester un simple photographe. Hébergée chez les Green, Marilyn devient aussitôt « auntie » pour leur fils, Joss, qui a 1 an. Elle le fait manger, lui donne son bain. Et le soir de la Saint-Sylvestre, c'est elle qui reste avec lui pour que ses parents sortent.
Avez-vous découvert, Patrick Jeudy, en faisant ce film sur Marilyn, Marilyn malgré elle, des choses que vous ignoriez totalement sur ce passage de sa vie ?
Oh oui, je dirais, c'est comme ça qu'on apprend d'ailleurs.
Bien sûr.
Je veux dire, parfois, je me lance dans un sujet sur une envie, une image. On en parlait tout à l'heure. Peut-être un plan que j'ai vu et je me dis, je vais faire un film à partir de ce plan. Donc, pour Marilyn, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Mais j'ai toujours abordé Marilyn avec des psychanalystes, paradoxalement, des psychanalystes écrivains, notamment le. J'avais adapté le livre de Michel Schneider qui parlait de la psychanalyse de Marilyn. Et ce sont eux qui m'ont parfois... d'ailleurs, notre processus était toujours le même. Ils me disaient quasiment, bon, allonge-toi et raconte-moi ce que tu as voulu dire.
C'est vrai.
Oui, absolument.
Ça vous a fait une petite thérapie en même temps, c'est bien.
Gratuitement. Enfin non, c'est moi qui l'ai payé.
Et même pour ce film-là, à aucun moment vous ne dérogez à votre habitude du tout archive. Jamais vous ne faites une interview de quelqu'un qui raconterait. C'est un choix.
Écoutez,
esthétique.
Esthétique d'une part, mais si j'avais devant moi le psychanalyste de Marilyn, le docteur Grinson, qui est évidemment mort... Oui, je ferai sans doute quelque chose avec le docteur Grinson, mais avoir un journaliste ou un historien qui raconte ce que moi je peux raconter, et mieux parce que je le maîtrise avec mes images et la voix off, effectivement je ne vois pas l'utilité d'intervenant.
En effet. Mais en revanche, ça fait des films assez chers, car les archives, les gens ne soupçonnent pas, c'est très cher les archives.
Alors oui, là c'est la vraie bagarre, effectivement, parce que tout est dans le prix de l'archive, je veux dire les moyens que l'on vous donne pour les chercher, les trouver et les payer, parce qu'il y en a qui atteignent des prix démentiels.
Quand vous avez fini un film, comme celui-ci par exemple sur Marilyn, est-ce que vous avez l'impression d'avoir vous-même terminé un cycle ? Voilà, je sais ce que je ne savais pas sur elle, j'ai transmis ça, je passe à autre chose maintenant, j'ai...
Non, non, je reviens toujours sur la même chose. Je suis, vous savez, comme le peintre qui, même dans le musée, viendrait avec son pinceau en rajouter. Moi, ma manière de rajouter, c'est de refaire un film sur le personnage.
Vous pourriez refaire un film sur Marilyn maintenant ? Qu'est-ce que ce serait de nouveau alors ?
J'en ai fait.
Non, mais maintenant, qu'est-ce que vous diriez de nouveau maintenant ?
Justement, je vous en ai parlé. Les écrits intimes de Marilyn, par exemple. Ou une fiction autour de Marilyn.
Marilyn et Arthur Miller, vous en parliez à l'instant.
Arthur Miller, qui a pris pied dans sa vie, réussira-t-il à lui apporter la confirmation qu'elle attend depuis sa rupture avec Hollywood ? La confirmation qu'elle n'a été Marilyn que malgré elle. La confirmation qu'on ne pourra plus jamais la réduire à cette jeune femme sexy qui aimait se déshabiller devant les hommes et pour qui coucher faisait partie du travail. Quand j'ai commencé à poser, toutes les filles faisaient ça. Et si on ne marchait pas, il y avait 50 filles derrière nous qui étaient prêtes à prendre la place. Photographiée par Milton Green, est-ce à Arthur qu'elle se confie ici au téléphone ? À cet intellectuel si brillant qui répondait en tout point à son propre désir de s'améliorer. À cet écrivain qu'elle trouvait tellement plus intelligent qu'elle. À cet homme qui, lui, ne doutait pas de sa propre supériorité. À l'opposé exact de Faust, elle avait voulu signer un pacte contre le diable. À Hollywood, on vous payait $1,000 pour un baiser et 50 cents pour votre âme. Je le sais parce que j'ai souvent rejeté la première proposition et que mon âme n'est pas à vendre.
Voilà, un bon moment du film. C'est Marilyn malgré elle, un des films de Patrick Jeudy que nous recevons aujourd'hui sur réalisateur documentaire, avec cette patte très particulière de l'archive à laquelle il fait tout dire sans presque d'intervention extérieure. L'Indochine est une de vos obsessions, j'emploie le mot un peu excessif, mais il y a un peu de ça. L'Amérique aussi, Marilyn, mais pas que. Vous parliez de Nixon, par exemple, personnage honni, mais pour lequel vous avez une tendresse, vous.
Oui, j'ai fait un film sur lui.
Oui. Mais est-ce qu'il faut aimer son personnage pour faire un film sur
mais
lui?
Mais il faut le réhabiliter.
Vous pensez?
Ah ben, Nixon a été une victime de la bien-pensance, du politiquement correct. Il était, évidemment, ce qu'il a fait...
N'incarne pas quand même la droiture absolue.
C'est vous qui le dites. Nixon, oui, certes, il buvait, oui, certes, il était colérique, mais c'est lui qui a renoué les relations avec la Chine.
C'est vrai, c'est vrai. Il a été efficace. Maintenant, est-ce que moralement, c'est quelqu'un de respectable? Quid du Watergate, quand même?
Pas moins que d'autres. Et puis, le Watergate, c'est une affaire de pieds nickelés par rapport à tout ce qu'on peut vivre depuis.
C'est vrai. Néanmoins, il y a eu un sondage, il y a déjà 10 ans, je me souviens, je l'avais vu, qui disait que Nixon était le président le plus haï de l'histoire, encore maintenant.
Oui, mais tant pis, moi je continue à défendre Nixon.
Vous avez fait aussi un film sur Elliot Ness et Capone, je crois.
Ah bah oui, alors là c'est un jeu. Oui, c'était presque une commande, oui je crois que c'était une commande. Oui, l'enjeu était intéressant, il n'y avait aucune image ni de Capone ni d'Elliot Ness. Et dans toutes ces archives d'images animées, oui. Mais même de photos, il n'y avait pas énormément de choses. Et j'ai réussi à en trouver. J'ai même trouvé un plan d'Eliot Ness. Alors que c'est on ne le connaissait
pas. Ça, c'est un grand plaisir quand même, quand on retrouve quelque chose comme ça. Non, c'est une
un
vraie
plan
jubilation.
Dans la foule, chercher Charlie. Il était là, je l'ai reconnu, et puis c'était circonstancié. Il était venu pour quelque chose, mais il était dans la foule. Il accompagnait Capone dans le train qui allait l'amener au pénitencier.
C'est fou, ça, d'avoir trouvé ça. Un plaisir.
Un plaisir.
Jane Mansfield aussi a fait l'objet d'un film. Donc, c'est une Amérique de l'époque 50-60. Vous ne faites rien du très contemporain, jamais.
Non, parce que les images sont moins belles. Moi, je suis venu aux archives beaucoup par la photo. Je veux dire, j'aime beaucoup la photo. Et la belle archive est quelque chose qui et en plus, elle bouge par rapport à la photographie. Donc, c'est comme ça que je suis venu aux archives.
Vous ne feriez pas un film maintenant si une chaîne vous proposait de faire maintenant. Patrick Jeudy, vous allez partir en Ukraine. Vous suivez une unité ukrainienne et vous racontez leur vie.
Oui.
Est-ce que vous feriez ça? Alors, tout à fait autre chose que vous faites.
Eh bien, j'en reviens à la première question que vous m'aviez posée sur le Graal.
Oui.
Oui, effectivement, je rêverais de faire ma 317e section, ma section Anderson.
Section Pierre Schoendorfer, qui suit une section de militaire américain. Un vrai film.
Effectivement, je crois que je serais assez fou, mais pas assez courageux, en revanche, pour faire ça. Une unité de lieu, une unité de temps, une unité d'action. D'ailleurs, beaucoup de mes films, sous le couvert d'une biographie, c'est souvent un moment que je choisis. Par exemple, là, j'ai le 31 mai, un Marilyn en Corée qui va passer sur France Télévisions.
Non, c'est vrai.
C'est-à-dire les 4 jours pendant lesquels Marilyn est venue chanter pour les GI.
Pardonnez-moi, est-ce qu'il y a matière, à parler et avoir assez d'images pour un sujet aussi pointu que ça?
Je les ai trouvées.
Il y a 50 minutes d'images de Marilyn en Corée.
Absolument.
Oui, j'en connais où elle danse devant la foule, j'en connais quelques-unes.
Ouais, vous en connaissez 30 secondes.
Voilà.
Moi, j'en ai retrouvé 35 minutes, et avec le son. Et elle chante.
Quand est-ce qu'on va voir ça, alors?
Le 31 mai.
Ah, très bien sûr. Sur quelle chaîne?
France 5.
Marilyn en Corée.
Voilà.
L'autre obsession de l'époque, c'est Camelot, comme on disait, c'est-à-dire la cour de John Kennedy. Une chanson qui évoque sa famille, Patricia Cass.
Pas comme Rose Kennedy. Je voudrais pas que mes filles chéries deviennent plus tard, quelle folie. Président des États-Unis, elle s'appelait Kennedy Rose. Mais dites-moi, quelle métamorphose d'une si jolie fille rose.
ceux de toute leur vie faire un défi. De toute leur vie faire un défi. Je suis pas comme Rose Kennedy. Je voudrais pas que mes filles chéries deviennent plus tard. Quelle folie. Président des États-Unis. C'était une jolie petite fille rose. Ses filles chéries de l'Amérique auraient pu faire de la musique, des sciences ou des mathématiques. Au lieu de n'être que des filles, je suis pas comme Rose Kennedy. Que mes filles chéries deviennent plus tard. Quelle folie. Président des États-Unis.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr. et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Nous recevons aujourd'hui Patrick Jeudy, réalisateur de documentaires, tous absolument passionnants, foisonnants, avec un style inimitable, même si certains l'imitent un peu maintenant, essentiellement basé sur le tout archive. Les Kennedy. C'est intéressant ce que vous avez à dire. Les Kennedy, c'est un mythe. Rose Kennedy, Patricia Cassampard, la matriarche, les enfants, tout le monde les voit comme les souverains non régnants mais de l'Amérique. Une image parfaite, mais au fond, vous ne les aimez pas tant que ça.
Au début, oui. Au début, évidemment, vous faites votre premier film sur les Kennedy, tambour et trompette, c'est formidable. Et puis, je dois en avoir fait 7-8. Plus vous rentrez dedans, plus vous vous intéressez évidemment à la face cachée, enfin à ce qu'on ne dit pas
Bien
ou
sûr.
Qu'on connaît moins. Et sur les Kennedy, on est gâté. Je veux dire, on est gâté.
C'est-à-dire que Patrick, si vous votez maintenant, sachant ce que vous savez, je vous transporte. En 60, les citoyens américains, il faut voter Kennedy ou Nixon, votez Nixon.
Non, Kennedy quand même.
Ah quand même?
Oui.
Malgré tout?
Oui.
Pourquoi?
Parce qu'il représentait la modernité, la jeunesse.
Mais vous disiez à l'instant qu'il y avait une face cachée un peu...
Bien sûr, mais il est mort avant de nous faire subir sa face cachée.
C'est trois
il
années,
était temps d'ailleurs.
Trois années de règne seulement, si j'ose dire.
Absolument.
Et ça reste un mythe.
Oui, parce qu'il est mort.
Est-ce que c'est argumenté? Est-ce que c'est justifié par les faits, selon vous? Est-ce que ça justifie
non.
une telle aura?
Non, par exemple, son successeur, Johnson, qui n'a rien de glamour, a fait beaucoup plus que Kennedy, tant sur les droits de l'homme que sur la guerre du Vietnam.
Oh, il a impliqué beaucoup l'armée, mais encore plus que Kennedy, vous m'étonnez là.
C'est lui qui a amené... oui, bien sûr, ils avaient une manière de négocier un peu à la Trump, je veux dire, plus on tape,
oui, c'est ça.
Plus on peut mieux négocier. Mais sur les droits de l'homme, par exemple,
oui.
qui est quand même... un sujet brûlant, Johnson a fait beaucoup plus et beaucoup mieux.
Et la famille Kennedy n'est pas exemple de reproches. On sait souvent que le père a fait fortune de manière un peu limite, hein,
oui.
proche. On sait que la mafia a soutenu les Kennedy financièrement. Sinatra servant un peu son style de go-between, tout ça est vrai, tout ça est avéré.
Bien sûr.
Et vous en voulez, et vous avez raison, à Rose Kennedy, la mère, pour avoir contribué à l'élimination de sa fille, rappelez-nous comment ?
Rosemary. Rosemary Kennedy, qu'est-il arrivé à Rosemary? Eh bien, elle a été lobotomisée parce que c'était une jeune fille différente et un peu trop différente peut-être, et qu'elle risquait
elle
de gêner...
Elle n'allait pas bien sur la photo.
Voilà, elle risquait de gêner le fils dans son ascension pour le pouvoir.
Vous pensez, vous allez jusque-là, un cynisme à ce point-là?
Ah ben oui, complètement. Oui, oui, c'est, ça, c'est pas un secret.
Vous avez fait des films sur Bobby aussi, qui lui trouve plus grâce à vos yeux, je crois. Ah,
Bobby, c'est un petit peu la pierre d'espérance de cette famille. Mais si Bobby n'était pas mort, on l'aurait tué. Parce que...
c'est intéressant comme
vous
formule.
Vous avez lu, c'est rodé. Hein. mais c'est vrai. Je veux dire, Bobby a été tué avant d'être confronté au pouvoir. Il était aux marches du pouvoir. Il aurait... Son projet aurait été impossible à mettre en œuvre.
Vous avez plongé pendant des années dans les archives et dans tous ces dossiers Kennedy. Je vous demande de nous livrer maintenant la vérité. Qui a assassiné Kennedy? Est-ce que vous le savez, vous?
Non, pas du tout. Mais j'en ai beaucoup parlé dans un Dallas où j'ai pu avoir accès à tous les petits films qui avaient été tournés sur place.
On voit très bien qu'il y a deux tireurs, on est d'accord.
Évidemment.
Que pensez-vous, de la thèse de Leverstone, JFK, qui semble dire que c'est Johnson qui est derrière tout ça?
Je ne sais pas.
Vous n'y croyez pas ou c'est possible?
Je n'ose pas y croire.
Voilà. Donc, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts convergents. Il y a la CIA, il y a aussi les castristes, les contre-castristes,
voilà.
Il y a tout le monde.
Or, certainement, effectivement, une collusion d'intérêts.
Vous avez fait de nombreux films sur les Kennedy. Vous avez ici choisi, sur celui-là, un angle d'entrée assez particulier qui est la malédiction. On ne peut pas être un Kennedy heureux.
Ange en apparence, démon en réalité, ils ne méritaient pas ce qui leur est arrivé. Aucun enfant ne mérite, comme Robin Elizabeth, d'être abandonné à une nanny un mois après sa naissance par des parents désireux de partir en croisière. Aucun enfant ne mérite, comme Chris disant à son père « J'ai besoin de toi, papa », de s'entendre répondre « Fiche-moi le camp d'ici ». Aucun enfant ne mérite, comme Cara, de fuir son image de petite fille boulotte dans des fugues répétées. Bobby était le meilleur pour parler de l'avenir des États-Unis, mais très bientôt il n'allait plus être là pour connaître l'avenir de ses enfants. Et il ne saura jamais que son fils Robert Jr. s'étourdira dans la drogue, que William sera accusé de viol, que Michael trouvera la mort dans un accident de ski, que John John s'écrasera en avion, ou que David, son fils préféré, abandonnera la vie, terrassé par une overdose.
Il n'y a pas de Kennedy heureux. C'est un film de Patrick Judy qui est notre invité aujourd'hui. Je répète que je vous vois avec beaucoup de plaisir écouter vos films. La radio, c'est merveilleux pour ça. Parce qu'on imagine des images. Vos images choisies sont parfaites, mais imaginer, c'est encore mieux parfois, non? La radio, c'est mieux que la télé sur certains points.
Moi, j'ai du mal parce que je les connais. Donc,
bien sûr.
J'adore cette bande-son, mais derrière, je projette les images que j'y ai mises.
Combien de temps de montage en moyenne sur un de vos films documentaires?
Montage proprement dit, de 10 à 15 semaines.
Pour un film d'une heure, en gros?
Une heure et une heure et demie, 18 semaines.
En ayant déjà visionné, vous voulez dire après visionnage des premiers éléments?
Non, visionnage complet.
D'accord. Du moment zéro, vous commencez, vous mettez en salle de montage.
Voilà. Absolument.
Et quand vous livrez le film,
voilà.
C'est 18 semaines, ça peut être 18 semaines.
Il y a d'autres travaux après, bien sûr.
Parmi les sujets que vous abordez, il y a, donc on parlait à l'instant de l'image, un qui a mérité un de vos films et que je trouve très intéressant, c'est Robert Capa, photographe. Et là, c'est pareil, un peu, vous êtes aussi un briseur de rêves, parce que les Kennedy, tout le monde les adore. Vous nous dites qu'ils ne sont pas si terribles que ça. Et Robert Capa, le photographe de guerre idéal qui a affronté le danger, il l'a vraiment fait, ça, quand même. Eh bien, il n'est pas exempt de reproches non plus. Rappelons qui est Capa, c'est un photographe d'origine hongroise qui change de nom pour que ça fasse plus glamour, plus vendeur. Il s'appelait, je crois, Friedman.
André
Friedman, c'est vrai que ça marche moins bien. Robert Capa, indiscutablement courageux, il est le seul photographe à Omaha Beach en 1944, en juin.
Alors que rien ne l'obligeait à se porter volontaire, il fut le seul et unique reporter photographe à participer à la première vague du débarquement d'Omaha Beach. Il se fit affecter au 2e bataillon du 116e régiment d'infanterie
parce qu'à l'heure où celui-ci devait atteindre les côtes normandes, à 6h30 précise, il était sûr d'une chose, qu'il aurait assez de lumière pour y prendre ses photos. Et même si vous n'avez jamais vu les photos que Robert Capa prit ce jour-là, vous saviez qu'elles existent. Vous saviez que quelqu'un avait été assez fou pour se glisser ses appareils photos bien protégés de l'eau par un petit sac en toile cirée étanche au premier rang de cette armada.
Ce qui est très frustrant, c'est que finalement, les photos de Capa, on en connaît assez peu du débarquement. Elles ont été détruites pour la plupart, non? Elles ont disparu?
Oui, elles ont disparu. Elles ont été spoilées, brûlées au séchage par un laborantin un peu trop nerveux. Donc, les 8 ou 10 qui restent...
C'est très peu, alors qu'il a dû en prendre des centaines dans la journée.
Voilà, et il devait y avoir des photos extraordinaires. Alors, le paradoxe, c'est que dans le film, il n'y a aucune photo de Capa.
Prise par Capa, vous voulez dire?
Oui, prise par Capa, parce qu'on me l'a interdit par jugement de justice.
Comment ça? Et la famille, qui les ayant droit?
La famille, effectivement, avec qui j'étais en contact depuis 5-6 ans, j'étais allé les voir... Ils n'acceptaient pas que... D'abord, ils ne voulaient pas qu'un Français seul fasse un film sur leur frère. Ils voulaient que ça soit le turiféraire de Capa qui le fasse. Et puis, quand nous, on a lancé le film, eh bien, un avocat nous a envoyé une lettre très précise disant « Vous n'aurez pas de photos ». Et l'agence Magnum a refusé de nous vendre les photos.
Et ça ne vous a pas découragé, le film
Eh bien, j'ai perdu pour perdu, j'ai dit « je vais le faire ». Et comme ce qui fait un petit peu l'intérêt du film, c'est qu'à l'époque, les photographes étaient en poule, souvent avec des caméramans, et que très souvent, il y avait un caméraman qui était avec Capa. Donc il y a beaucoup de scènes, de photos même, qui sont doublées en film par un caméraman. Alors ça, ça détruit un peu la légende.
Et vous y avez eu accès à celle-là?
Oui. Ah ben, je les ai trouvées,
c'est
oui.
Ça, ouais. Et d'ailleurs, justement, arrivons à ça, la légende. La photo que tout le monde connaît de Capa, celle de ce milicien espagnol fauché par une balle qui tombe en arrière. Et bien sûr, cette photo emblématique qui a fait beaucoup pour la cause des Républicains. D'ailleurs, les Américains ont été outrés. Enfin, ils ont pris conscience de la violence de ce qui se passait là-bas. Et sur cette photo, il y a un vrai doute. Alors, il prend les photos... Il les envoie à Paris, écoutez la suite.
Il envoya la pellicule à Paris, parmi d'autres rouleaux, sans signaler l'importance de ses clichés. Manifestement, il ne se doutait pas le moins du monde que quelques mois plus tard, il serait devenu un photographe célèbre, parce que cet appareil que je tenais au-dessus de ma tête, dira-t-il avec ironie, avait photographié un homme au moment où il se faisait descendre. Là, il fait paraître la photo avec cette légende. Un soldat espagnol à l'instant précis où sa tête est atteinte par une balle. Les Américains ont la sensation du jamais vu. Quelques-uns protestent, beaucoup s'étonnent, mais tous sont sidérés. Pourtant, depuis au moins 30 ans, le doute persiste. Et si la photo mythique n'était qu'une mise en scène ? On évoque l'absence de négatif, les versions contradictoires de Capa, l'impossibilité d'identifier avec certitude le soldat mort. D'ailleurs, il n'y a pas un, mais deux républicains fauchés par une balle et photographiés par Capa. Deux instantanés de la mort, et qui auraient été réalisés sous le même angle, le même jour, au même endroit, à la même heure. Avec l'ennemi supposé tiré dans le dos du photographe, difficile de ne pas croire en effet à une mise en scène. Quand on superpose les deux photos, en remplaçant simplement le premier soldat par le second, on s'aperçoit que le chaume du sol est resté bien droit, que le ciel est le même, au nuage près, et que le premier mort, disparaissant dans les coulisses, a comme laissé sa place sur scène à un second acteur, jouant le même rôle.
Voilà un film de Patrick Jeudy qu'on écoute à l'instant sur Robert Capa. Et là, vous semblez très clairement prendre le parti de dire « ce n'est pas une vraie photo ». Vous semblez l'affirmer presque.
Oh, maintenant, je peux l'affirmer. Il y a eu tellement de travaux depuis 15 ans Voilà pourquoi la famille a interdit l'utilisation des photos. Elle aurait pu interdire le film, elle l'aurait fait. Je veux dire, mais il n'y a rien de répréhensible. À l'époque, on était en 36, 37. À l'époque, la photo, c'était une illustration. Ce n'était pas un constat d'huissier. Il ne s'agissait pas de montrer comme maintenant, c'est la vérité vraie, exacte, qui t'a triché d'ailleurs. Non, c'était des illustrations.
Donc, pour être très clair, cette photo mythique, pour vous, est une sorte de faux, mais néanmoins, vous n'en voulez pas à Capa.
Ce
n'est pas un imposteur pour autant, il était vraiment sur le front.
Absolument, et puis c'était les méthodes, les partis pris de l'époque qui voulaient ça. On faisait de l'image.
La photographie vous semble, comme nous tous, j'imagine, assez menacée par l'irruption de l'IA. Est-ce que cet univers que vous nous montrez dans votre œuvre depuis 30 ans ne va pas disparaître sous les coups de boutoir de la technologie ?
Oui, mais je regrette de ne pas avoir ma carrière devant moi, la carrière devant moi, parce que l'IA...
Vous n'auriez pas peur d'être confronté à cet instrument-là ?
En matière de film tel que je l'ai fait, non, je trouve que ça pourrait être formidable.
Mais plus aucune photo, plus aucune image n'aura valeur de preuve. N'importe quoi peut être dit.
Mais c'est déjà le cas. De toute façon, c'est déjà le cas. Voyez, sur Internet, maintenant, une photo sur deux est une fausse photo.
Donc, vous nous dites, n'ayez pas peur, tel Jean-Paul II à l'époque, n'ayez pas peur.
Il faut maîtriser, il faut encadrer. Il faut maîtriser et encadrer, voilà. Mais c'était certainement beaucoup plus dangereux dans d'autres domaines.
Bien sûr.
C'est-à-dire, dans celui-là, oui, c'est vrai, on va perdre quelque chose.
Mais il y a des écrivains, des scénaristes dont les jobs sont menacés.
Ben oui, et puis tous les faussaires. Maintenant, ça va être des gens qui sauront manier l'outil, qui vont créer.
Bien sûr.
Il va falloir réglementer, ça c'est sûr.
Patrick, je dis, votre univers nous plonge généralement dans le temps, une histoire pas très vieille, mais une histoire, les années 50, 60, 30, et puis c'est l'histoire sérieuse. Et parfois, j'ai dans votre œuvre, si j'ose dire, j'ai reconnu un film qui m'a amusé parce qu'il sort de l'inspiration habituelle. Le héros n'est pas Marilyn, il est moins sexy que Marilyn, moins important que Kennedy, moins courageux que Capa. C'est Raymond Poulidor.
Les vacanciers du mois de juillet sont venus en nombre dès le début du jour pour voir Raymond. En début de course, les jambes du coureur sont froides. Puis elles tournent pour se chauffer. Doucement, puis frénétiquement. Nous attendions son démarrage et ce jour-là, il l'a fait. À 13h40, à la sortie de Grenoble, et sentant la présence de la caméra sur son visage, Poulidor a attaqué. C'est le début de son histoire avec la gloire. L'oreille collée au transistor, nous nous souvenons avec émotion de la voix qui annonçait Raymond en tête. On l'encourage, on hurle « Poulidor » avec tous les accents que la France a fait.
Votre film s'appelle « Poulidor Ier ». Dites-moi si ma lecture est bonne, j'y vois un jeu de mots. À la fois c'est un souverain comme François Ier, et en même temps ça veut dire qu'enfin il peut être premier, parce que la légende est d'ailleurs excessive. Vous savez que le record de deuxième place du Tour de France, ça n'est pas lui, c'est Zutmelk. Donc l'éternel second, c'est faux, il a gagné des courses.
Bien sûr, il a gagné des courses, mais Poulidor, c'est moi, c'est mon enfance, c'est ma vie. Je crois que j'ai fait ce métier pour faire ce film sur Poulidor.
Non, c'est une belle phrase, ça.
Bien sûr, non, mais c'est exact. J'habitais pas loin de chez lui. Et moi, je suis né avec
dans la région de Limoges, je crois.
Oui, absolument.
C'est Léonard de Noblat.
Voilà. Et je suis né avec sa victoire. Et je lui ai écrit pendant des années. Je l'ai approché à plusieurs reprises. Je l'ai vu. On s'est serré dans les bras après le film. On a passé une soirée ensemble, une matinée, il m'a raconté des choses comme je les rêvais quand j'étais enfant.
Vous avez fait ce métier pour continuer à être un enfant ?
Sans doute.
Mais je vous comprends. Donc vous étiez plus Poulidoriste qu'anctiliste, parce qu'à l'époque la France était séparée.
De la même manière que j'étais plus Nixon que Kennedy. J'ai toujours aimé les bouseux, sans doute. Excusez-moi cette expression.
Est-ce qu'on peut faire un film sur quelqu'un qu'on n'aime pas du tout ?
Ah non. Non, non, je crois que je voulais caser cette phrase de Roger Stéphane que j'adore, je ne me lasse pas d'admirer.
D'accord. Donc, vous ne feriez pas un film sur Staline ?
Non.
Ah, c'est intéressant. Vous devez être guidé par un certain amour de votre modèle.
Ah oui. Ou alors je tombe amoureux de mon modèle en le connaissant. Par exemple, Gabin, j'ai jamais été fan de Gabin. Là, je fais un Gabin pendant la guerre. Je suis extrêmement touché par cet homme-là.
Ah, ce film, on le voit bientôt. Rappelez-nous la date.
Ça sera celui-là, ça sera en novembre pour le 50e anniversaire de la mort de Gabin.
Ah oui, fin mai, on voit le film sur
voilà,
Marine en Corée.
Absolument.
France Télévisions. Et en novembre, on voit le film sur Gabin.
Arte.
Gabin, je crois, plus vieux chef de char de la 2e DB, c'est ce qu'on disait.
Bien sûr, plus vieux chef de char, mais plus vieux combattant.
Oui, enfin, il était aux États-Unis, il vivait tranquillement avec Marlène Dietrich, il aurait pu rester là-bas.
Tranquillement, mais avec quand même le désir de faire quelque chose. Et c'est un exemple quand même pour beaucoup de monde maintenant. À 40 ans quand même, il s'engage.
Bien sûr.
Il va risquer sa vie à 40 ans jusqu'au dernier jour, jusqu'au 8 mai 1945.
Et depuis que vous avez fait ce film, vous l'aimez plus, du coup, votre Jean Gabin.
Évidemment, je l'ai découvert.
Ça, c'est cela de votre enfance aussi. On va accueillir au téléphone quelqu'un, vous allez voir, de très surprenant. C'est de votre enfance, ça. Écoutez cette musique, ce feuilleton de l'époque, des années 60.
Les chevaliers du ciel, dans un bruit de tonnerre, à deux pas du soleil, vont chercher la lumière. Moitié ange et moitié démon, mauvaise tête mais gentil garçon.
Les Chevaliers du Ciel, on l'écoute en fond, c'est un feuilleton des histoires de Tanguy et la Verdure, on se souvient de cette BD, et c'est devenu aussi une série télévisée. Au départ, c'est une BD. Pourquoi ce petit clin d'œil ? Car au bout du fil, nous avons maintenant, et on parlait de Jean Gabin, de quelqu'un qui avait combattu, nous avons au téléphone quelqu'un dont je ne sais pas très bien, Philippe Levert, si je dois l'appeler mon colonel ou mon père. Vous êtes là, Philippe Levert ?
Bonsoir, oui. C'est plutôt mon père maintenant, oui.
Parce que Philippe Levert, on va essayer de résumer votre vie. Nous sommes avec Patrick Joly qui a fait beaucoup de films sur l'histoire. Et vous, l'histoire, vous y avez participé à votre niveau car vous avez été pilote dans l'armée de l'air française pendant longtemps. On verra le détail dans un instant. Et maintenant, vous êtes prêtre. C'est cette espèce d'antinomie comme ça, de surface, qui m'a semblé stupéfiante et qui m'a poussé à vous demander de parler avec nous aujourd'hui. Vous avez accepté. Merci infiniment. Donc, vous êtes prêtre depuis combien de temps, Philippe Levert ?
Oh, c'est tout jeune, je fais partie des jeunes prêtres, ça fait 10 mois seulement que je suis ordonné, donc voilà, c'est vraiment tout récent, tout récent.
Et quelle est votre paroisse ? Vous êtes à quel endroit ?
Oh, je suis au nord de Romans-sur-Isère.
Dans la Drôme.
Une petite paroisse, dans la Drôme, avec une dizaine de communes.
Mais avant cette carrière de prêtre, cette carrière, le mot est malvenu, cette vocation plutôt de prêtre, pardonnez-moi, vous avez été pendant longtemps un militaire, un aviateur. Sur quel type d'appareil avez-vous volé, Philippe Levert ?
Voilà, donc je suis resté 30 ans dans l'armée de l'air, donc j'étais pilote de chasse. Ma vie opérationnelle a commencé sur Mirage F1 et j'ai terminé sur Mirage 2000. Voilà, et puis j'ai fait pas mal de détours un peu partout, au Canada, en Angleterre,
Je suppose
à la
que
Réunion.
Vous connaissiez vous aussi Tanguy et la Verdure, est-ce que ça a contribué à vous donner envie ?
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait.
La vocation militaire, on parle de vocation ecclésiastique, est-ce que la vocation militaire avait la même amplitude, la même ampleur, pardon ? Vous aviez toujours eu cette envie dans votre enfance de rejoindre l'armée de l'air notamment ?
Oh oui, oui, oui. C'était collégien encore que je voulais faire ce métier. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire mon rêve de gamin. J'ai commencé à piloter à 14 ans. Et j'ai eu mon brevet de pilote à 17 ans et un jour. Voilà. Donc, et puis, je me sentais bien que quand j'étais seul en l'air, parce que j'aimais bien bouger l'avion. Et voilà, puis j'ai décidé de faire l'école de l'air et tout est allé très vite.
Parce qu'il y a deux dimensions. Qu'est-ce qui vous intéressait ? Au fond, est-ce que c'était voler ? Auquel cas, vous auriez pu rentrer dans une compagnie aérienne ? Ou est-ce que c'était aussi l'aspect militaire qui vous inspirait ?
En fait, un petit peu les deux, mon général, non.
C'est trop d'honneur, je suis capitaine de réserve, je vous donne le respect.
C'était plutôt le vol au départ qui est l'attrait immédiat. Mais après, quand même, on est obligé de se poser la question... quand on va dans la vie militaire, d'abord, c'était aussi les avions. C'était l'avion de chasse, c'était pas l'avion de transport, l'avion de ligne. Non, ça m'intéressait moins. J'étais plus, effectivement, Tanguy et la Verdure. Et c'est ça plutôt qui me passionnait.
Qu'est-ce qui vous inspirait? Est-ce que c'était l'aventure, si j'ose dire, individuelle, ou est-ce que c'était aussi le patriotisme et être prêt, en cas de, être prêt à défendre le pays? Voilà.
Si, il y avait ces deux aspects. Initialement, c'était quand même le vol, quand on est tout jeune. Et après, quand même, comme je disais, on se pose la question, est-ce que tu es prêt à défendre ton pays? Est-ce que tu es, jusqu'où tu es prêt à le servir? Et puis, il y avait même l'idée, dans le fond, un jour, tu peux y rester quand même.
Bien sûr.
Et donc, il y avait toute cette problématique qu'il a fallu accepter et puis dire, ben oui, je suis prêt. Et puis, à l'époque, quand j'étais tout jeune, ben, j'étais persuadé que je ne vivrais pas très, très, très vieux à cause du fait de mon métier.
Combien d'heures de vol, Philippe Levert, pardonnez-moi, je vous coupe, combien d'heures de vol, notamment combien sur les avions qui nous impressionnent de type Mirage?
Donc là, j'ai 4000 heures de vol, en gros, et puis j'en ai peut-être 3500 sur avion de chasse.
J'ai avec moi Patrick Joly, réalisateur de films, notamment en film historique, qui vous écoute avec intérêt. Là, on est des témoins. Lui, il l'a vécu vraiment, c'est pas la même chose que nous. On a devant nous un vrai militaire qui a volé. Vous auriez pu faire ça?
Non.
Vous préférez témoigner, vous préférez regarder?
Non, mais j'ai le vertige et le mal de l'air.
Votre carrière militaire, vous disiez, Philippe Levert a duré une trentaine d'années. On la situe, c'est de camp à camp, donc?
Donc, je suis rentré en 1974 dans l'armée de l'air, et puis j'ai dû quitter. En fait, c'est peut-être un petit peu plus, parce que j'avais un régime spécial, donc j'ai dû être compté dans l'armée de l'air jusqu'en 2006.
Donc, vous quittez l'armée de l'air comme lieutenant-colonel, vous avez fait, j'imagine, Salon de Provence, le cursus...
Colonel plein, comme on dit.
J'ai toujours... voilà. La formule colonel plein m'a toujours fait un peu rire. Pardonnez-moi, je vous ai un peu rétrogradé. Pour l'anecdote, enfin c'est au-delà d'anecdote, pour le contenu, puis-je savoir si vous avez été amené à être vraiment opérationnel? Parce qu'on s'entraîne, dans l'armée, et puis parfois on passe à l'action. Est-ce que ça a été votre cas?
Oui, alors, rarement aux commandes d'un avion, sauf à quelques missions spéciales de décollage sur alerte pour aller voir ce qui se passait exactement et puis aller interroger des avions non identifiés. Mais à part ça, à chaque fois, j'étais dans le ZAG. Je suis parti au moment où mon unité partait soit en Afrique, ou alors pendant la première guerre du Golfe, comme on avait les mêmes avions que Saddam Hussein, on ne pouvait pas voler pour éviter tous les tirs fratricides.
C'est important de comprendre. Pourquoi on ne pouvait pas voler? Réexpliquez-nous ça avec l'histoire en Irak.
En fait, en Irak, la France avait vendu le même type d'avion à l'Irak. Et donc, on ne voulait pas des avions équivalents, des avions similaires dans les deux parties pour éviter ce qu'on appelle les tirs fratricides. C'est suffisamment difficile à identifier un avion. Et puis quand,
ah oui, d'accord.
On ne voulait pas de... On a envoyé plutôt des Mirage 2000 qui étaient Delta, donc c'était plus facilement différenciable des Mirage F1. Voilà. J'ai participé à des opérations, mais en tant que chef de détachement, et donc j'étais plutôt au sol dans un état-major, dans une conduite d'opération.
Je crois savoir que vous avez été très près d'intervenir très directement dans l'affaire des pilotes français qui étaient prisonniers des Serbes. On peut rappeler ça en 30 secondes.
Oui, mais là, tout à fait. Mais c'était un coup, en retard, parce que nos deux pilotes qui s'étaient fait descendre et qui sont éjectés, eux, ils ont été faits prisonniers 30 minutes à peine après être posés au sol. Et nous, on a continué à chercher. Et puis, il y a eu peut-être un piège lancé par les Serbes des semaines après, et où on a déclenché des missions de rescue, de combat rescue. Et voilà, il s'est avéré qu'en fait, il n'y avait pas les pilotes, c'était un piège. Mais voilà, j'ai participé dans un des hélicos, mais qui n'est pas allé sur le théâtre. J'étais juste en backup, je veux dire, en réserve, au cas où il y avait un des hélicos américains qui était pris mal à partie et qu'il fallait appuyer, quoi.
Est-ce que c'est le plus grand moment de tension de votre carrière militaire?
Non, un petit peu. Il y a eu du stress parce que j'étais tellement fatigué. Puis à un moment donné, quand ils ont fait des essais d'armement et de, de, de tous les systèmes. J'ai cru qu'on était agressé, enfin qu'on était attaqué, alors que c'était juste à des effets au-dessus de l'Adriatique. Et donc voilà, c'est juste un petit coup de stress comme ça, mais à blanc.
Donc nous menons une double interview. Après l'interview du colonel Levert, nous passons maintenant à l'interview du père Levert, mais c'est la même personne. Pardonnez-moi d'être un peu réducteur et un peu sensationnaliste, mais vous vous imaginez bien à quel point votre double vocation peut surprendre. Dans l'armée, il y a quelque chose forcément lié à la violence, de manière inhérente, à la violence en tout cas potentielle, et la religion, c'est la paix entre les êtres. Donc comment peut-on passer d'un univers à l'autre aussi différent ?
Déjà, j'aurais peut-être pas le même avis sur le côté militaire.
Non, mais je vous en prie.
Si on est militaire, on est là justement pour défendre la paix. Normalement, si on a réussi notre mission, quand on n'est pas parti en guerre, quand la dissuasion a fonctionné, et puis que voilà, on est là juste pour, on est une force d'assurance, on a une assurance quoi. Et donc, ce qui nous motive, c'est plus la paix et préserver la paix sur notre territoire. Et pour ça, pour préparer la paix, il faut savoir être crédible et savoir préparer la guerre.
C'est le principe de la dissuasion.
Voilà, c'est la dissuasion. Et puis ça a marché quand même, ça a marché pendant toute la guerre froide. On n'a pas eu de... c'est sûr que les enjeux n'étaient pas les mêmes, il y avait moins de petits conflits avec des guerres asymétriques. Donc maintenant, c'est plus compliqué à la limite. Maintenant, c'est plus compliqué, parce qu'on est obligé de partir en opération. Mais les militaires ne sont pas là pour faire... ils savent faire la guerre.
Je comprends.
Mais normalement, ils ne devraient pas la faire.
Je comprends la nuance.
Donc ça rejoint un petit peu, voilà.
Mais j'imagine...
Par contre, les deux ont du c'est une notion de service pour les deux, quand même.
C'est ça.
Moi, j'étais au service de ma patrie, pas de mon pays, et puis je me sens au service, maintenant, ça s'est élargi beaucoup plus avec la vocation... La vocation religieuse.
J'imagine que tout au long de votre vie, vous étiez croyant. Ça n'est pas une foi soudaine qui est tombée sur vous.
Non. J'ai toujours été croyant, mais il y a quand même un moment donné. C'est pas parce qu'on est tombé dedans quand on est petit. Il y a quand même un moment donné où on passe de sa foi d'enfant à sa foi d'adulte. Et là, je me souviens très bien de ce passage aux environs des 17 ans, 17-18 ans, que pour où j'ai dit, mais maintenant, c'est moi qui crois, et pas parce que mes parents ont cru, parce que, voilà. Mais sinon, pour moi, j'ai pas que deux engagements, je considère que j'en avais eu trois, et à chaque fois, c'était trois coups de cœur. Le premier coup de cœur, c'était peut-être, bien sûr, celui qui est venu chronologiquement, c'était l'aviation, et après, ça a été aussi mon épouse, qui a été un coup de cœur, et puis qui m'a beaucoup formé, beaucoup forgé, qui a été extraordinaire. Et puis après, le troisième coup de cœur, ça a été bien sûr la prêtrise. Et ce que je pourrais dire de plus étonnant, c'est que le coup de cœur le plus fort, vous n'allez pas me croire, c'est la prêtrise.
Non, je vous crois. Je suis un peu embêté car je ne veux pas empiéter dans votre vie privée, mais je crois que vous avez perdu votre épouse. Pardonnez-moi si je suis inconvenant.
Non. D'abord, j'aurais pas pu être prêtre si j'avais été encore engagé. Et donc, oui, j'ai perdu mon épouse il y a 6 ans, donc c'est fin 2020. Et en fait, la vocation, elle est venue à peine un mois et demi après les funérailles de mon épouse. Donc, c'était un petit peu étonnant. Je suis moi-même étonné parce que c'est pas très logique tout ça. Je serais plutôt normalement à en vouloir au bon Dieu de m'avoir pris celle que j'aimais.
Rappelez-moi alors, apprenez-nous, faites-nous comprendre comment on bascule de quelqu'un qui a une foi très forte, certes, mais dont ce n'est pas l'engagement de tous les jours, à quelqu'un qui décide de dire « maintenant je propage, je transmets la foi, je suis au service de Dieu ». Comment est-ce qu'on... cette bascule, on a du mal à la comprendre?
Oui, moi j'avais du mal à la comprendre aussi, parce que jamais je me serais lancé là-dedans de moi-même, c'est-à-dire que c'est plus une expérience, j'allais dire presque mystique, Oui, c'est une expérience très forte. Un mois et demi, on m'invite à aller à participer à une retraite spirituelle ignatienne. Et puis, c'est là que ça a basculé. C'est plus une expérience de l'amour de Dieu qui a été au-delà de tout. Donc, à la limite, c'est trois coups de cœur. Toute ma vie, l'aviation, le mariage, et ça, c'est aussi un coup de cœur. C'est une expérience que je ne pourrais pas décrire parce que je suis incapable de la décrire maintenant, mais je sais que je l'ai vécu. Et c'est ça, ça a été tellement fort que eh ben, je me suis dirigé, j'ai posé la question, est-ce que j'en parle, est-ce que c'est complètement idiot ce qui m'arrive à mon âge, ou est-ce que j'en parle à mon évêque ? L'accompagnateur, il a pris du temps, et puis il m'a dit, ben, parlez-en à votre évêque. Et puis après, tout allait très très vite. Le bon Dieu m'a accompagné pendant les 4 années de formation requise à mon âge.
Bien sûr.
J'ai eu le droit un peu plus court.
Comment réagit votre famille parce que c'est un tel changement ? Est-ce qu'ils n'ont pas eu le sentiment que vous les abandonniez un petit peu ? Je suis provoquant volontairement.
Non, alors l'évêque a posé la question donc à ma fille et puis à ses 7 enfants, donc parce que je suis grand-père de 7 petits enfants.
Ouais,
et puis ils étaient déjà tous croyants aussi et engagés. Donc quand ils ont découvert ça, ils ont été étonnés. Il y a juste l'aîné qui a 21 ans dit d'accord, ok, pas de problème, mais je ne sais pas si j'irai me confesser à grand-père.
Donc voilà. D'accord. C'est un inconvénient mineur.
Julie, tu as bien raison, parce que normalement, il ne faut pas.
Exactement. Donc votre famille, vos enfants, votre soutien et comprend votre choix.
Ah oui, tout à fait. Alors, là, par contre, quand l'évêque a posé la question, j'ai été un peu étonné de la réponse de ma fille, qui a dit en quelque sorte, je m'attendais peut-être qu'un jour, je donne un de mes fils au bon Dieu. Mais je ne m'attendais pas à donner mon papa. Donc c'est là que j'ai compris que ça lui faisait quand même un petit quelque chose. Mais elle a toujours été très accompagnante et très aidante et ça s'est bien fait. Et d'ailleurs, l'évêque m'avait dit après que s'il avait senti des restrictions et puis quelque chose qui n'allait pas, eh ben, il disait non pour l'appel.
Dites-moi, Philippe Levert, mon père, vous avez défini très bien votre vocation militaire et pourquoi, quel était votre rôle, à savoir préparer la guerre pour maintenir la paix. C'était très clair en quelques mots, votre mission. Définir votre mission de prêtre en quelques phrases aussi courtes, que ça donnerait quoi ?
Ouf. Pour moi, c'est être au service. Il y a beaucoup une notion de service. Et puis, je ressens quelque part, pour que je sois heureux, il faut que les autres soient heureux aussi. Donc, il me faut le bonheur des autres pour que moi, je trouve mon bonheur. J'ai une phrase d'un de mes professeurs de théologie à Lyon qui me reste, c'était Dieu sauve en rassemblant. Et c'est vrai. Comment je peux être heureux si jamais il y a un membre de famille qui ne l'est pas ? Et après, un membre de famille, mais on peut aller très loin comme ça.
Bien
et donc
sûr.
Pour moi, je veux le salut du monde, quoi.
C'est un vaste sujet. Il nous reste peu de temps. Je vous pose une question énorme, naturellement, mais vous y êtes préparé. Cette vie de prêtre que vous menez depuis un an à peine, est-ce qu'elle ressemble à ce que vous imaginiez et est-ce qu'elle vous comble ?
Non, en fait, oui, elle me comble. Ça, c'est parce que oui, elle me comble. Mais elle ne ressemble pas du tout à ce que j'imaginais. Et puis je me dis que je pourrais dire que pendant la formation, je me suis refusé à un moment donné de dire maintenant j'imagine. Parce que à chaque fois, on me posait la question, tiens, on va plutôt te mettre là pour ta formation. Et moi, je dis, moi, ça serait plutôt autre chose que je verrais. Et à la relecture, c'était exactement ce qu'il me fallait. C'est ce qu'ils avaient choisi pour moi. Donc, fort de cette expérience d'être pas toujours clairvoyant dans ce que j'aurais pu choisir, eh ben je me suis dit j'arrête de choisir, enfin d'imaginer ce que je veux faire,
je comprends.
Et je me laisse guider. De toutes les manières, j'ai été bien formé comme ça dans l'armée, où à chaque fois on me dit bah, maintenant tu vas là. Donc ça
votre supérieur actuel est bien au-delà des généraux 4 étoiles.
Voilà, tout à fait.
Merci beaucoup Philippe Levert, merci d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. Je rappelle que vous étiez pilote de chasse avant de devenir prêtre, une expérience quand même relativement rare, c'est le moins qu'on puisse en dire, et très impressionnante. Merci d'avoir consacré un peu de temps pour nous la faire partager, merci infiniment. Vous êtes dans la Drôme, je le rappelle.
Je vous en prie.
Merci beaucoup mon père.
Oui, tout à fait.
Merci.
Allez, bonne soirée. Au revoir.
Merci. Merci. Nous finissons l'émission avec Patrick Jeudy, qui écoutait avec intérêt ce parcours très surprenant, non ?
Passionnant.
Ce n'est pas un sujet connu comme Kennedy ou comme Marilyn, mais c'est quand même quelqu'un qui vit quelque chose de fou.
Oui, vous savez, chez les militaires, il y a de très grands chrétiens, et je ne suis pas étonné.
Mais c'est vrai. Mais entre être un chrétien actif et puis passer de l'autre côté du miroir et devenir un soldat de Dieu, si j'ose dire, il y a quand même une sacrée différence.
Oui, j'ai bien aimé le parallèle avec la garnison, avec le fait d'être affecté ici ou là. J'aurais voulu lui poser la question, lui dire, mais vous avez été affecté à Romont-sur-Isère.
C'est ça, il l'a dit.
Dans l'Isère ou effectivement dans la Drôme.
Ah oui, bah il nous l'a dit.
Voilà.
On va se quitter, Patrick Julien, avec regret, parce que c'est très passionnant. Et je pense vous faire plaisir en vous en écoutant 1 minute 30 avant de se dire au revoir, notre dear Marilyn. Would you like? Yes, you would.
Just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Pa-dum-pa-dum-pa-dum-dee-dum. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Notre chère Marilyn, qui était le personnage central d'un des films, de plusieurs, mais notamment du film de Patrick Joly qu'on a écouté tout à l'heure, brièvement des extraits, Marilyn, malgré elle. L'après-midi, la fin d'après-midi était avec Patrick Joly. Rendez-vous avec 2 films importants de vous bientôt. Fin mai, donc Marilyn en Corée, le 31 mai. Et en novembre, le film sur Gabin, sur Arte. Gabin, chef de char.
Voilà.
Voilà. Gabin, pas aviateur, pas comme le père Levert, mais chef de char. Merci beaucoup, Patrick Joly. Merci, c'est bon après-midi.
Vous.
Et je vous conseille à tous de voir le film Patrick Joly. Il y en a beaucoup sur YouTube, ça vaut vraiment la peine. Si vous aimez l'histoire et si vous aimez l'image, et rêver et apprendre. À bientôt. Merci sur Courtoisie.
Vous venez d'entendre Les Neiges du Kilimandjaro de Marc Bessou. Cette émission était diffusée en direct sur Radio Courtoisie, samedi 16 mai 2026, de 18h à 19h30.